Notre Dieu, c'est le Dieu de sainteté. Quelle grâce! Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6e, verset 1er, le peuple avait perdu la vue du Dieu de sainteté. L'année de la mort du roi Ozia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11e, à partir du verset 23e, le contexte, ils avaient perdu aussi la vision du Dieu saint, du Seigneur Jésus, qui lui aussi est saint. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que le nom du Seigneur soit glorifié. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je crois que nous nous sommes éprouvés les uns les autres avant de venir, et que nous sommes rendu digne par celui qui est digne, le saint, le juste, le parfait, celui qui est dans la gloire, assis à la droite de la majesté divine, et qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous allons partager le repas du Seigneur, nous allons continuer à l'adorer en esprit et en vérité. Et s'il y a des dons spirituels, qu'ils s'exercent dans l'onction de l'Esprit pour l'édification, la consolation, l'exhortation. Mardi, c'était notre réunion de travail pastoral. Et puis, un des pasteurs a donné ce témoignage. Il dit « La semaine dernière, Nous étions en train de prier, et puis j'ai écouté un frère, un pasteur de l'équipe, qui parlait en langue, qui n'exerçait pas le don des langues, mais qui parlait en langue. Et je l'ai écouté. Et j'ai dit, mais cette langue dont parle le pasteur, je connais cette langue. Je la parle même. Et ce pasteur, après cette réunion, avait rendez-vous avec une personne inconvertie. Et il a retenu cela. Cette personne te posera telle question et tu répondras de telle manière à cette question. Et lors de la visite, la personne inconvertie a posé telle question et le pasteur a répondu à cette question de telle manière. Dieu est un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu saint. Il est le Dieu par excellence. Que son nom soit glorifié, remercié, adoré. Il est au milieu de nous. Il est en vous. Il est en moi. Qu'il règne au milieu de nous. Que son nom soit glorifié. Vous qui êtes baptisés par immersion, je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Et notre frère Alnick va présenter au Seigneur ce repas. Et puis ensuite, nous allons louer et adorer Dieu. Je vous invite à vous lever.
Il faudrait descendre le micro.
Gloire à Dieu. Oui, notre Père. Oui, 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 Seigneur.
J'aimerais lire quelques versets dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 6. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, au verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et nous pouvons dire « Amen ». C'est en effet sur cette dernière partie de notre lecture que j'aimerais m'arrêter quelques instants ce matin. C'est vrai que cette lecture que nous avons faite est un peu difficile à comprendre, comme j'imagine elle a dû l'être pour l'apôtre Paul. Il devait traverser probablement l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. D'un côté, tout allait bien. Dieu lui avait donné un grand nombre de visions, un grand nombre de révélations. Le ministère de l'apôtre Paul était en bénédiction pour tous. De nombreuses âmes étaient sauvées dans les villes, les villages. où il se présentait. Des malades étaient guéris, des vies étaient transformées. Des croyants étaient baptisés du Saint-Esprit. Les églises se multipliaient. Tel un nouveau Moïse conduisant les Hébreux vers la terre promise, Paul avait structuré l'Église pour qu'elle parte à la conquête du monde. À la différence de l'Église centralisée créée par les apôtres de Jérusalem, qui devait bientôt s'éteindre avec la chute de la ville sainte, Paul avait établi l'Église selon les ministères spirituels du Saint-Esprit. Et c'est cette structure de l'Église qui fonctionne encore de nos jours, en tout cas dans les églises de Pentecôte dont nous faisons partie. Paul avait une structure spirituelle extraordinaire, un rayonnement sans pareil dans ces temps de l'Église primitive. Mais le verset 7 de notre lecture nous dit que pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil au sujet des révélations qu'il avait reçues du Seigneur, il lui avait été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter. Ah, cette écharde dans la chair de l'apôtre Paul. Il semble que cette écharde a plus tourmenté certains commentateurs que l'apôtre Paul lui-même. Qu'est-ce qu'on a bien pu essayer d'expliquer avec cette écharde? Les uns se basant sur l'épître aux Galates, au chapitre 4 et verset 13, imaginent que l'apôtre aurait eu des crises périodiques qui auraient rendu son aspect physique répugnant, méprisable. D'autres, utilisant l'épître aux Galates au chapitre 6, verset 11, imaginent que l'apôtre Paul aurait eu des problèmes de vision à la suite des problèmes de vue à la suite de sa vision qu'il avait eue sur le chemin de Damas. Et que cela lui serait resté d'une manière définitive. D'autres confondent tout simplement une écharde dans la chair avec une écharde de la chair et voient dans cette écharde de la chair certains problèmes que le célibat ou le veuvage auraient pu poser à l'apôtre Paul. Cependant, Paul n'appelle pas cette écharde une maladie. Parce que fait le croyant lorsqu'il est malade? Il prie le Seigneur de le guérir. En tout cas, c'est ce que j'espère que nous faisons tous. Là, il demande que cette écharde, que ce problème s'éloigne de lui. C'est tout à fait différent entre le fait de prier « Seigneur, guéris-moi » et « éloigne ce problème de moi ». D'autre part, la chair dans la Bible ne désigne pas uniquement le corps, mais dans un autre sens, au sens moral, la chair désigne également les pensées. Toute cette vie intérieure qui est en nous, comme l'exprime l'apôtre Paul au chapitre 5 de l'épître aux Galates au verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, les dissolutions, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, et tant d'autres choses. Il semble donc que cette écharde dans la chair désigne non une maladie, mais certaines opposition physique ou spirituelle que l'apôtre rencontrait périodiquement ou peut-être constamment dans son ministère. Et lorsque l'apôtre parle d'un ange de Satan qui est là pour le souffleter, il ne veut pas dire qu'il est possédé. Parce que dans ce cas, eh bien, il s'agit de chasser Satan. Et au nom de Jésus, eh bien, la personne est délivrée. Et Paul lui-même avait eu l'occasion de chasser de nombreux démons dans ce sens. Non, en parlant d'un ange de Satan, eh bien, Paul souligne qu'il avait à faire face à des envoyés, à des messagers de l'ennemi de nos âmes qui étaient là pour lui mettre des bâtons dans les roues dans son ministère. Bien que repoussé victorieusement par notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa tentation dans le désert, en fait, l'ennemi de nos âmes cherche constamment à s'opposer à l'établissement du royaume des cieux. C'est face à l'ennemi de nos âmes que Jésus a dû résister. Et d'une autre manière, c'est à ce même ennemi de nos âmes que l'apôtre devait résister pour établir victorieusement le royaume de Dieu sur la terre. Voyez quelques-unes des oppositions auxquelles a dû faire face l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 11, dans les versets 22 à 33. Souvent, en danger de mort, trois fois, battu de verge, cinq fois, reçu 39 coups de bâton, c'est-à-dire 40 coups moins un. 40 coups, c'était ce que, à l'époque, on avait déterminé comme entraînant la mort. Pour être sûr de ne pas tuer, on en donnait un de moins. Souvent en péril de la part des brigands, de la part des juifs et des faux frères. À cette opposition à laquelle devait faire face l'apôtre Paul, il faut ajouter peut-être le comportement de certains chrétiens de l'église de Corinthe, qui, animés de mauvais sentiments, ne cessaient constamment de contester son ministère. Il y a également cette Hyménée et cette Philette qui renversaient la foi des autres, selon l'épître à Timothée, ou Alexandre le forgeron qui s'opposait aux paroles de Paul, ou bien alors ce Démétrius qui, à Éphèse, a organisé une révolte pour que l'apôtre ne puisse parler de l'évangile dans cette ville. Paul avait en face de lui une grande opposition lorsqu'il voulait apporter la parole du Seigneur. Il avait prié une fois pour que cette écharde s'éloigne de lui. Rien ne s'était passé. Il avait prié deux fois. Rien ne s'était passé. Il avait prié trois fois. Et alors, il avait entendu cette réponse dérangeante, surprenante de la part de Dieu. « Ma grâce te suffit. » C'est vrai que certaines fois, Dieu ne répond pas à nos prières comme on voudrait qu'il nous réponde. Souvent, nous fixons la manière dont Dieu doit répondre, doit intervenir. Mais peut-être que Dieu avait donné la même réponse à Paul lorsque Paul l'avait prié pour la première fois. Et peut-être que Paul n'avait pas entendu, ou n'avait pas voulu entendre, ou n'avait pas voulu comprendre ce que Dieu lui avait dit. Heureusement que Paul a entendu cette réponse de Dieu lorsqu'il a prié pour la troisième fois. Sans ça, ben, on peut imaginer qu'il aurait prié 4 fois, 5 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois. Heureusement que cette fois-là, la troisième fois qu'il priait, il a entendu cette réponse, il a réalisé que Dieu lui répondait, « Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » J'aimerais m'arrêter ce matin quelques instants sur la première partie de cette réponse de Dieu, « Ma grâce te suffit. » C'est vrai que il nous arrive fréquemment de ne pas entendre, de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir comprendre les réponses de Dieu lorsqu'elles ne nous conviennent pas. À ce point de sa vie, quand Paul avait un ministère aussi puissant, aussi rayonnant, aussi extraordinaire, Paul doit apprendre cette réponse de Dieu, Paul, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que c'est donc que cette grâce de Dieu qui est suffisante pour pallier à l'absence de réponse de certaines de nos prières? La grâce de Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que la grâce de Dieu est suffisante? Le mot « grâce », c'est un des mots les plus employés dans la Bible. C'est un mot très important, la grâce. Il se trouve environ 453 fois. Peut-être 455, vous savez, on peut refaire les totaux, mais c'est un mot qui est très employé. En fait, la Bible commence pratiquement avec le mot « grâce » et se termine pratiquement avec le mot « grâce ». Le premier homme dans la Bible qui est associé au mot « grâce », c'est Noé. Ah, du temps de Noé, ça allait mal sur la terre. Et la méchanceté des hommes était grande. Mais Noé, nous dit le chapitre 6 de la Genèse au verset 5, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu ne pouvait plus laisser l'homme qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance, se corrompre de plus en plus. Avant d'intervenir, alors Dieu parcourt la terre et regarde ce que les hommes font, comment ils vivent. Et voilà qu'il trouve enfin un homme qui ne se conduit pas comme les autres hommes, un homme qui essaye de faire le bien. Un homme qui avait encore le contact avec l'Éternel. Alors, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Le mot « grâce » est également l'un des derniers mots de la Bible. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, c'est une formule de bénédiction. Chapitre 22 et verset 21, « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » La grâce du Seigneur, du début jusqu'à la fin de la Bible, du début jusqu'à la fin de ma vie, de ta vie, mon frère. Voilà ce qui vaut la peine d'être vécu. « Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. » Mais comment est-ce que la grâce du Seigneur peut être avec nous, mais de la même manière qu'elle était avec Noé, dans ces temps éloignés. Noé, mais par ses actions, par ses paroles, par son comportement, par ses silences, par ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas, Noé tranchait sur les autres hommes. C'est cette disposition que, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, manifeste tous ceux qui ont foi dans les promesses de Dieu, tous ceux qui veulent vivre cette relation avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande de vivre dans cette grâce. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, verset 6, il nous demande que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. C'est-à-dire que chacune de nos paroles soit accompagnée de la grâce que Dieu vous a fait, que Dieu m'a fait, que Dieu t'a fait, mon frère. Comme étaient accompagnées de la grâce de Dieu les paroles que Noé prononçait en son temps. Noé, mais selon l'épître, la deuxième épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 5, Noé était le prédicateur de la justice de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il parlait, Noé parlait de Dieu, de ce qu'il allait faire, de ce qu'il avait fait dans sa vie, de ce qu'il allait faire dans la société de son temps. Et c'est pour cela que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que non seulement Noé était concerné par la grâce que Dieu allait faire dans la société de son temps, mais il annonçait à ses contemporains ce que Dieu allait faire, la justice de Dieu, et de quelle manière ses contemporains pouvaient bénéficier de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est dans notre vie. Mais elle ne doit pas rester enfouie, cachée, comme du temps de Noé. Elle doit se manifester par des actions, des paroles. Paul également avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça avait été un bouleversement, un changement, passer des ténèbres à la lumière, de persécuteur à persécuté. Depuis quelque temps, il avait cette écharde qui était en lui. Et il demandait au Seigneur d'éloigner cette écharde de lui. Imaginez la réaction de l'apôtre Paul lorsqu'il entend dans la réponse de Dieu à sa prière, cette parole, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Oh Seigneur, qu'est-ce que tu me racontes? Si je comprends bien le désarroi dans lequel je suis, la souffrance dans laquelle je me débat ne doit avoir aucune influence sur mon comportement, mes pensées, ma vie, mon ministère, mes paroles. Mais tu vois bien que je souffre. Je souffre comme Lot, en son temps, pouvait souffrir de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait, lorsqu'il voyait le comportement de ses contemporains dans la ville de Sodome et de Gomorre. Et tu me dis de ne pas me plaindre, de ne parler que de ta grâce, de vivre en manifestant ta grâce, alors que... Mais Seigneur, je comprends pas. Oh, si je pouvais ne serait-ce qu'une fois, de temps en temps, me plaindre à un frère fidèle, à une sœur, qui comprendrait mes difficultés, si je pouvais ouvrir mon cœur à quelqu'un de l'Église pour qu'il comprenne mes larmes, un collègue dans le service pour qu'il me donne un petit coup de pouce. Oh, si je pouvais montrer, ne serait-ce qu'une seconde, la nature de ces larmes les plus amères, les plus secrètes. Oh, je suis sûr que j'aurais quand même quelques paroles, quelques comportements qui me réconforteraient. « Oh non, 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 Paul, » a pu répondre le Seigneur, « ne fais pas ça, parce que ma grâce te suffit. C'est pas les autres, mais c'est moi. C'est pas la grâce des autres, c'est la mienne. Sais-tu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ? Alors que tes paroles soient toujours assaisonnées de cette grâce que tu as reçue de moi, de ma grâce, et non de tes pleurs, et non de tes douleurs. » Parce que vois-tu, Paul, même avec cette écharde qui te meurtrit, les autres ont bien plus besoin d'entendre ce que ma grâce a fait dans ta vie que l'énumération de tes douleurs, de tes tribulations, de ce qui ne va pas. Non. Regarde tout ce que ma grâce a fait pour toi. Prends quelques instants pour te souvenir de tout ce que ma grâce a fait pour toi, au lieu de ne voir que ce qu'elle n'a pas fait. J'en ai bien plus fait que j'en ai encore à faire dans ta vie. Ah, mon frère, ma sœur, comme Paul en son temps, peut-être que tu soupires après un Dieu qui ne répond pas à tes prières comme tu voudrais. Alors tu pries une fois, deux fois, trois fois. Mais, et si Dieu t'avait déjà répondu? Et si c'est toi qui n'avais pas entendu? Et si c'est toi qui ne voulais pas entendre? Il n'y a pas, comment on dit ça, pire sourd. Non, ben vous connaissez, c'est pas la peine que je continue. Et si tu entendais ce matin la voix de celui qui a calmé Paul, apaisé Paul? Mais Paul, c'est pas n'importe qui. Par rapport au plus excellent d'entre nous, c'est un géant. Nous n'arrivons même pas à la moitié de sa cheville. Imaginez tout ce qu'il a fait, les victoires qu'il a obtenues par le jeûne, la prière, le zèle, tout ce qu'il a fait pour le Seigneur. Ma grâce te suffit. Voilà ce que le Seigneur lui a répondu. Et voilà ce qui a consolé l'apôtre Paul. Oh, écoute ce matin cette voix qui cherche à te consoler. Ne laisse pas cette écharde, cette épine, s'enfoncer dans ta vie au point d'engendrer quelques racines d'amertume qui infecteraient tes pensées, au point de te faire prononcer des paroles inspiré par l'adversaire de ton âme. Paroles que tu regretterais, actions que tu regretterais. Ce qui doit marquer ta vie, mon frère, ma sœur, ce ne sont pas les soucis que peuvent t'occasionner quelque épine qui serait dans ta chair, mais c'est la grâce de Dieu pour toi. C'est ça le moteur de la vie, c'est ça qui donne la raison de vivre, alors que tes paroles soient toujours assaisonnées de la grâce de Dieu. Comme Noé en son temps, tu trouveras grâce aux yeux de ton Créateur dans ce déluge d'immoralité et de perversion qui submerge notre société actuelle. La grâce de Dieu évoque également, dans un autre sens, une certaine beauté, comme l'exprime le proverbe au chapitre 11, verset 16, « Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. » Peut-être que les dames pourraient dire « Alléluia ». Bon, elles n'en sont pas convaincues. Mais c'est vrai, lorsqu'on voit un petit bébé, avec ses gestes, c'est gracieux. Quand on voit des adolescents, c'est gracieux. Au Louvre, il y a la statue des Trois Grâces, en marbre. Tout le monde s'arrête, il y a un attroupement, on les prend en photo. Et ben, c'est vrai que à un certain âge, la beauté du corps est empreinte de grâce. Et puis, au Louvre, il y a aussi Une autre statue devant laquelle je m'arrête parfois, ah, c'est la statue de Voltaire, en marbre aussi. Voltaire sortant du bain. Il est vieux. Ah, c'est pas le fait qu'il soit seulement couvert d'un petit linge. C'est de voir, mais il y a des artistes qui sont doués. Il est vieux, mais vous voyez ces chairs qui sont vieilles. Ben, c'est... Je sais pas comment dire. Ah oui. Regardez-vous. Quand vous aurez l'âge qu'il avait, vous verrez ce que c'est. Et puis alors, quand on regarde la tête du personnage de Voltaire, ouh là là, il y a une expression, un rancard, une physionomie, une majesté, une beauté. C'est le contraste, voyez-vous. Et il a un rayonnement dans son regard. C'est vrai, mes frères, on peut être beau quand on est jeune, mais on peut être aussi beau quand on est vieux. Et moi, je dis amen.
Amen.
Et dans le Seigneur, c'est pareil. C'est beau de voir des jeunes chrétiens, tout feu, tout flamme, tout... Mais c'est aussi beau de voir des... Non, je voulais dire des vieux chrétiens, mais... Comment on dit maintenant ? Des chrétiens d'un certain âge, qui traînent la jambe, qui sont là, qui n'entendent pas trop, qui... Enfin, vous voyez ce que ça peut être, mais... C'est beau, lorsqu'on a le Seigneur dans le cœur. Lorsqu'on est dans la grâce du Seigneur. Parce que la grâce du Seigneur, ça nous parle également de la beauté, comme le rappelle ce verset des Proverbes que je lisais tout à l'heure. Imaginez Paul, endurant les souffrances de cet échat planté dans sa vie, qui entend Dieu lui dire, « Paul, ma grâce te suffit, c'est-à-dire ma beauté te suffit. » « Oh, Seigneur, a peut-être répondu l'apôtre Paul, c'est vrai ce que j'ai fait à une certaine époque de ma vie, c'était pas beau. Je t'ai persécuté, j'ai persécuté l'Église, mais dès que je t'ai rencontré sur le chemin de Damas, ta grâce a transformé ma vie. Mon âme a retrouvé sa beauté, ma vie a retrouvé sa splendeur. Est-ce que ce serait à cause de mon passé qui n'était pas beau que tu ne m'exauces pas ? Oh, c'est vrai, a peut-être répondu le Seigneur, c'est vrai. Tu en as fait des choses qui n'étaient pas belles dans ta vie. Tu en as dit des choses qui n'étaient pas belles. Te souviens-tu lorsque tu étais tout jeune encore et que tu ne pouvais participer à la lapidation d'Étienne ? Tu te proposais pour garder les vêtements de ceux qui jetaient des pierres. Mais qu'est-ce que tu avais besoin de désigner comme ça ? Te souviens-tu de tous ces chrétiens que tu as envoyés, chargés de chaînes en prison ? C'est vrai, Paul. Ah, ta vie n'a pas toujours été belle à mes yeux. Mais c'est précisément pour cela, à cause de cela, que je te dis aujourd'hui, ma grâce te suffit, c'est-à-dire ma beauté te suffit. Parce que pour moi, tu seras toujours beau à mes yeux. Parce que c'est ma beauté que je t'ai donnée. Parce que c'est ma splendeur, c'est mon rayonnement. Malgré ce que tu as pu dire, ce que tu as pu faire, je t'ai donné ma beauté, celle de mon Fils unique, du Fils unique de Dieu. Cette beauté que je donne à tous les rachetés, à tous mes rachetés, à qui j'ai pardonné leurs nombreux péchés. Pour moi, tu seras toujours beau. Mon frère, ma sœur, si comme Paul, tu n'as pas obtenu la réponse à ce que tu espères, ne laisse jamais le doute ou d'autres pensées négatives remplir ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as mal agi dans ta vie que Dieu ne t'exauce pas. Ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu ne répond pas comme tu le souhaites. Aux yeux de Dieu, même les plus pages, les plus laides de ta vie sont devenues belles parce qu'il a tout pardonné. Il a tout effacé parce que c'est ce genre de beauté que Dieu donne à tout et racheté. Là, la grâce de Dieu fait également penser à la bénédiction de Dieu. Parce que c'est avec la grâce de Dieu que le peuple de Dieu est béni. Comme nous pouvons le lire dans l'Épître aux Romains au chapitre 16, verset 20, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Parce que le mot grâce nous parle de pardon. Encore de nos jours, on parle du droit de grâce. Dans des pays qui appliquent encore la peine de mort. Ce n'est plus le cas dans notre pays. Mais dans le peuple de Dieu, nous sommes tous sous le poids d'une condamnation de mort, comme le rappelle l'apôtre dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. C'était quelque chose de pénible lorsque dans notre pays, le condamné pouvait encourir la perte de la vie. Mais dans le domaine spirituel, c'est encore plus terrible. La mort, la séparation d'avec Dieu. Et ce mot « grâce » nous évoque cette bénédiction par laquelle Dieu bénit ses enfants et qui contient ce pardon extraordinaire par lequel il nous a fait passer de la mort à la vie. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a fait grâce. Dieu a retiré de sur nous cette condamnation que méritait nos péchés. Ma grâce te suffit. Quelle réponse extraordinaire. Mon pardon te suffit. J'ai pardonné tous tes péchés, les grands péchés, les petits péchés. Y a-t-il des grands et des petits péchés? Sûrement pas. Il y a les péchés dont nous nous souvenons, oui, et puis ceux qui sont si nombreux que... Et Dieu a tout pardonné. Ceux dont nous nous souvenons, ceux que nous avons oubliés. Et pour nous pardonner, il a souffert sur la croix. Non seulement il a porté la couronne d'épines, non seulement il a enduré les clous et les coups de lance, mais il a porté nos péchés. Et nous ne pourrions pas souffrir une petite écharde dans notre vie. Notre vie, oui. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur à l'apôtre Paul, pour lui expliquer que bien, sa prière ne sera pas exaucée. C'était un cas particulier, peut-être, parce que vu l'excellence de ses révélations, comme nous l'avons lu, eh bien, il lui avait été mis cette écharde dans la chair pour éviter qu'il ne s'enorgueillisse. Que se serait-il passé si Dieu avait exaucé cette prière? Est-ce que l'apôtre Paul serait tombé dans l'orgueil? On ne sait pas. Ma grâce te suffit. C'est la réponse incompréhensible pour celui qui la reçoit, mais que Dieu donne parfois. C'est cette réponse, probablement, que le Père a donnée au Fils lorsque, par trois fois, Jésus, comme l'apôtre Paul, a prié à Gethsémané que cette coupe s'éloigne de moi. Dans ce jardin, Jésus a prié avec une telle intensité que sa sueur est devenue comme une sueur de sang qui tombait à terre. Dans ce jardin, Jésus a demandé s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Que se serait-il passé si la coupe s'était éloignée de Jésus? Comment nos péchés auraient-ils été pardonnés? Là, nous entrons dans le domaine des choses de Dieu où il faut garder le silence. Chaque vie est différente, chaque épreuve, chaque bénédiction est différente. L'apôtre Paul a reçu la sienne. Que serait devenue sa vie si cette écharde s'était éloignée de lui? Serait-il tombé dans l'orgueil? On ne sait pas. Mon frère, ma sœur, si un jour toi aussi tu entends cette réponse, ma grâce te suffit, reçois-la. Reçois-la avec foi. Reçois-la sans rechigner, sans douter, sans te questionner. Non. Reçois-la comme le Seigneur te la donne, parce que ta place est préparée dans la Jérusalem d'en haut. L'essentiel de ta vie n'est pas ici-bas. L'essentiel de ta vie est là-haut. Et comme l'écrit l'apôtre Paul, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La grâce de Dieu, elle a préparé ta place. Elle a pardonné tes péchés. La grâce de Dieu, elle vit en toi. Jésus est présent dans ton cœur. Alors continue ton chemin, parce que bientôt tu entreras dans la gloire, dans cette place que le Seigneur t'a préparée. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce qui est suffisante. Tu vois nos problèmes, nos difficultés, nos interrogations. Mais Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce qui est suffisante. Alors, nous te bénissons pour cette grâce et nous t'en remercions dans le nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Merci, frère. Nous voulons accueillir celles et ceux qui nous rendent visite. Merci de vous lever. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, retransmettez nos salutations, celles et ceux qui sont se levés à vos églises, à vos pasteurs, oui. Très bien, Dieu vous bénisse. Oui. Vous venez de la Côte d'Ivoire, bienvenue. Il y a de la joie, j'entends les Ivoiriens, là, que ça résonne dans leur cœur. Oui. Dieu vous bénisse. Voilà, Jean-David, bienvenue. Embrasse bien tes parents qui sont serviteurs de Dieu dans la région parisienne. Bonjour. Bienvenue, Dieu vous bénisse. Voilà quelques annonces. Avant de nous séparer, on va demander à Stéphanie Marlon de bien vouloir s'approcher. Alors, concernant dimanche prochain, nous aurons, lors du culte et de l'évangélisation, le pasteur Guyot de Lorient, et nous nous réjouissons de le recevoir. Je rappelle aussi, mardi à 19h30, la réunion de prière. Alors, j'ai mis la pensée de la semaine sur votre programme. Vous avez remarqué, mardi 19h30, réunion d'intercession. Puis-je prendre le temps de venir à l'église ? Donc, c'est à vous de réfléchir. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas le temps. Je dis, puis-je prendre du temps dans votre temps ? Que Dieu vous bénisse en abondance. Nous aurons le samedi 19 novembre à 19h, rencontre de jeunesse ado avec la jeunesse de l'église de Poitiers. Dimanche 20 novembre avec le pasteur Gérald de Reynaud, 9h45, culte et à 16h le service de baptême. Nous aurons 6 personnes qui vont s'engager normalement. Et nous espérons encore un autre baptême dans les temps à venir. Il me reste quelques secondes. Vous avez remarqué aussi dans le hall d'entrée, c'est terminé, c'est peint, c'est bien fait. Et puis dans le couloir aussi, c'est par rapport au hall. Il ne reste plus qu'à peindre les toilettes ou commodités. Et puis, concernant le lieu de culte, il ne reste plus que les portes. On va changer le teint. Et puis, concernant, on avait parlé du carrelage dans la maison de prière, là. Donc, à cause du son et des plaques, eh bien, nous n'allons pas passer au carrelage, sinon devoir changer les plaques, comme elles sont neuves. Donc, une sœur qui est professionnel dans le nettoyage va passer 2 jours. Je lui dis, mais avec une grosse machine, ça va être très facile. Elle m'a dit, non, je passerai avec une petite machine. Je prendrai 2 jours, mais ça sera bien fait. Chacun sa spécialité, hein. Concernant l'heure et les enfants et le grand couloir, donc là, nous ferons le carrelage et ensuite, tous les travaux seront finis et on remercie Dieu. Merci pour votre offrande, pour votre dîme, votre don que vous pouvez continuer à apporter. Comme cela, nous allons terminer les travaux le plus rapidement possible. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié, j'ai tout noté. Je vous rappelle cet après-midi à la réunion d'évangélisation, et puis aussi jeudi après-midi, la réunion d'évangélisation, et puis le jeudi soir, les différentes activités, campus solidaire, l'aumônerie évangélique universitaire, et puis nouveau départ. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse, et si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin aussi d'un conseil pour vous engager dans les eaux du baptême, voyez cela avec Wilson Daoussi, avec moi-même, ou même avec le pasteur Nicole. Nous vous donnerons les conseils et nous nous réjouissons. Voilà, ce fut une joie pour nous d'être avec vous et nous nous réjouissons. Nous accueillons aussi les parents Fakoundé, merci de vous lever, ils viennent de la Côte d'Ivoire, les parents de Grasse, les parents de Rudy, et puis aussi des bien-aimés qui sont là, bienvenus, et qui sont là aussi de... C'est pas loin de chez nous, là. Vous pouvez vous asseoir, frère Fakoundé. Ils sont de la Côte d'Ivoire. Hortense, voilà, qui nous rend visite, hein, avec la famille, et la famille Alnick que nous connaissons bien. Voilà, On se lève, on fait l'action de grâce.
Oh, pardon.
C'est la place à notre sœur Stéphanie Marlon.
Il nous quitte pour l'international. Allez.
Donc, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, c'est notre dernier jour parmi vous, du moins pendant un an minimum, parce que nous avons décidé de partir.
Et simplement vous remercier, vous dire qu'on n'oublie pas vos paroles, vos encouragements, et que vraiment vous avez été présents durant le deuil, et ça a été vraiment un réconfort pour nous. Donc voilà, remercier le pasteur et sa femme, ainsi que tous les frères et sœurs qui se reconnaîtront. Et voilà, vous dire qu'on n'oublie pas, cette église, parce que ça a été une famille pour nous. Et on sait où venir lorsqu'on sera à Nantes. Donc voilà, vraiment que le Seigneur bénisse chacune de vos vies.
Voilà, merci. Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, on se lève, on fait l'action de grâce. Merci au groupe de chant. Notre frère Gueilly, s'il vous plaît, va faire l'action de grâce.